Le dialogue a circulé un petit peu, d'un un petit peu trop entre les mêmes. Et donc, ce qui serait peut-être bien, c'est que d'autres questions viennent nourrir ou interrogations viennent nourrir la conversation. Notamment vous, hein, je crois que vous avez une question à poser.
Oui, c'est une question très générale, en fait. C'est François Nillet. Dès le début du séminaire, et plus le séminaire avançait, et en fonction de ma culture personnelle qui est assez restreinte quand même, j'ai vraiment l'impression que il y a quelqu'un qui brille par son absence dans le séminaire, c'est Nietzsche, qui m'a l'air d'être un intermédiaire de choix ou un interlocuteur de choix quand il s'agit de faire un lien de Kant à Foucault. Et je me rappelle qu'au début d'un certain séminaire, vous aviez proposé peut-être de faire un petit topo autour de Nietzsche. Donc c'était là, si c'est l'occasion, si c'est possible, voilà.
Alors, un petit topo autour de Nietzsche. Oui. Enfin, non, je ne vais pas vous faire un petit topo autour de Nietzsche parce que ce serait très prétentieux de ma part de tout d'un coup de vouloir improviser sur Nietzsche. Kant, Foucault et Nietzsche, vous voyez, sont. Bon. D'ailleurs, je n'ai pas fait ce topo, c'est parce que je suis très paresseuse. Non, c'est pas parce que je suis très paresseuse, c'est parce que d'une part, je suis très paresseuse et d'autre part, parce que, en fait, ce ne serait pas un petit topo. Vous voyez, hein, ce serait déjà une chose énorme. Non, c'était pour simplement dire que la manière dont Foucault interprète Kant, hein, cette façon de faire de Kant le critique de la politique pastorale, elle est intéressante parce qu'en fait, elle fait de Kant une espèce de pré-Nietzsche. Hein, c'est-à-dire, elle fait de Kant... Curieusement, de manière à mon avis tout à fait intéressante, quelqu'un dont au fond l'objectif secret aurait été quand même une certaine manière, tout en préservant finalement les droits de la religion, une manière d'attaquer l'Église, hein, et le pouvoir ecclésial, et qu'on peut dire que quand même chez Nietzsche on a exactement la même chose d'une certaine façon. Donc voilà, donc c'était l'idée qu'on aurait pu développer, l'idée qu'au fond, quand même, la critique dans le monde moderne, hein, la critique telle qu'elle s'est articulée dans la modernité de Kant à Foucault, par exemple, elle a un objet qui est rarement véritablement nommé, sauf chez Nietzsche peut-être, qui est véritablement le christianisme. Et que même chez Foucault, c'est jamais dit comme tel, d'une certaine façon. Voilà. Et je pense que, curieusement, c'est un objet extrêmement refoulé, que Nietzsche a pris un risque certainement psychique énorme en s'attaquant à cet objet-là. C'est que c'est pas quelque chose dont on, disons, peut sortir impunément. Finalement, c'est. Et donc, voilà. Donc, ça aurait été, disons, si j'avais fait ce topo que je n'ai pas fait, et que je ne ferai pas parce que je ne l'ai pas préparé, et que je n'ai pas envie de le faire mal cet après-midi en 5 minutes, parce que c'est trop intéressant d'une certaine façon, vous voyez. Ce serait vraiment du côté, effectivement, de ce qu'implique, à quel point, à quel point, en tout cas, la critique dans la modernité a toujours été, mais pas forcément en le disant, ou toujours de manière extrêmement ambivalente et problématique, une critique du christianisme. Voilà, c'était ça. Et à quel point c'est une chose énorme à soulever. Énorme, voilà. Tellement énorme qu'on n'arrive même pas à s'en apercevoir. Enfin, tellement énorme qu'au fond, il n'y a pas tellement longtemps, par exemple, qu'on propose une relecture de la Grèce antique qui soit complètement lavée, hein, de sa réinterprétation néoplatonicienne et chrétienne. Hein. Il a fallu quand même attendre Vernant, Vidal-Naquet, ces gens-là, hein, pour véritablement avoir une espèce d'accès à la Grèce. Hein. D'ailleurs, d'une certaine façon, dans la tradition Burckhardt-Nietzsche, hein, qui échappe, hein, à sa relecture néoplatonicienne et chrétienne. Donc c'est extrêmement récent. Hein, extrêmement récent. voilà, ça nous laisse à penser à quel point c'est un héritage qui est extrêmement difficile à... Je ne dis pas à monnayer, hein, il est absolument non monnayable actuellement, mais en tout cas, ne serait-ce qu'à évaluer, à sous-peser, etc. Voilà. Donc il n'est pas question de s'attaquer à ça en danseuse, comme ça, vous voyez. Hein,
Non, mais on aurait raison de s'y attaquer. Enfin, c'était ça ma question.
Moi, je le pense. Mais disons, ça n'engage que moi. Hein. Je pense que Bernard dirait tout à fait le contraire. Bernard Stiegler, il serait tout à fait opposé à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont avec lesquels je suis en partie tout à fait sur la même longueur d'onde, mais qui seraient tout à fait opposés à ça. Soit stratégiquement, hein, en termes de disons de d'urgence, notamment, soit sur le fond. Je ne sais pas si, voilà, je sais pas s'il y a des gens qui ont envie d'ajouter quelque chose sur ce point. Mais c'est un point où Baudelaire est très intéressant. Parce que Baudelaire, précisément, est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur, les relectures modernes du christianisme. Et puis toute la question du diabolisme, toute la question, enfin, je veux dire, de l'antéchrist, enfin, toutes ces questions-là. Bon, ça me... Voilà. Donc, d'autres interventions. Oui.
C'est pas très bon. Non, si, c'est autre chose.
Non, non, mais...
La forme de ma question n'est pas très loin. C'est sur la place d'un autre, donc non pas Nietzsche, mais Freud, dans cette affaire. Parce que, et en particulier dans cette affaire de pastorale et dans le rapport à Foucault. Parce qu'au fond, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris, le rapport que Foucault avait à Freud. J'ai toujours compris l'option qu'il avait mise sur le terme de plaisir plutôt que de désir comme étant un dialogue avec Freud. Et donc, simplement, tout à l'heure, on a parlé de Freud héritier, ou en tout cas reformulant une forme de pastorale. On parlait aussi de l'Œdipe et puis de la psychologie des profondeurs. Mais sauf qu'au fond, chez Freud, le problème, c'est pas la mémoire. C'est pas du tout la mémoire, puisque c'est pas une théorie de la mémoire qui fait, et que si on regarde de près, on s'aperçoit que ce qu'il raconte, c'est pas tant que l'inconscient fonctionne. Enfin, ce qui détermine en premier lieu l'inconscient, c'est pas tant le refoulement que la persistance des éléments refoulés. Quoi. C'est-à-dire que ce qui est assez fascinant chez Freud, ce sur quoi il bute, c'est le fait que finalement, des événements sont sauvegardés dans le psychisme, alors même qu'ils sont passés en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils ont disparu, et pourtant ils continuent à agir.
C'est quand même une certaine définition de la mémoire, ça.
C'est peut-être une définition de la mémoire, mais c'est pas une définition qui l'entraîne du côté de la psychologie des profondeurs.
Non, mais alors là, il faut effectivement vous répondre parce que peut-être que vous avez mal.
Non, vous avez pas mal, mais je suis sûr que vous avez bien. Non, mais c'est sûr que chez Foucault, il y a certainement deux modes d'approche de Freud, un mode d'approche extrêmement critique. Et où il, j'allais dire, il fait ce qu'on fait toujours lorsqu'on essaie de se débarrasser d'un ennemi. C'est-à-dire, au fond, il fait un usage absolument minimum de Freud. Hein, et que, bon, par exemple, la psychologie des profondeurs, même si Freud emploie ce terme pour désigner la psychanalyse, il est clair que parler de la psychanalyse en termes de psychologie des profondeurs, c'est un contresens total, et que ce que projette Freud, ça n'a rien à voir avec une psychologie des profondeurs, c'est au contraire, j'allais dire, une théorie de la surface psychique, hein. Donc ça n'a... Voilà. Mais et on peut dire que c'est de bonne guerre, hein. Mais en même temps, il y a quelque chose qui rapproche très 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 profondément. Alors, par ailleurs, pour ce qui est de la quand vous dites Freud n'est pas intéressé dans la mémoire, bon, je veux dire, c'est on pourrait dire c'est plutôt intéressé dans l'oubli. Hein. C'est vrai, mais enfin bon, en même temps, la question de Freud, c'est quand même intéressant de l'inscription et la réinscription d'un matériau mémoriel déposé à un certain niveau du psychisme et de voir comment, disons, dans une certaine, un certain type de système psychique, comment il est traduit et retraduit, écrit et réinscrit à un autre niveau. Hein, c'est quand même, disons, c'est ça finalement. Toute la théorie de Freud, c'est une théorie de l'écriture. Hein. Donc, ou de l'inscription en tout cas. Donc on ne peut pas dire qu'on est très très loin de la question de la mémoire quand même. Hein. Bon, ça c'est un peu une... Bon. Ceci dit, c'est sûr que Freud était un éclaireur non moins que Foucault. Hein. Tout en étant aussi quelqu'un qui a beaucoup pensé à la question de la répétition. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de problématiques extrêmement convergentes entre Freud et Foucault. Mais en même temps, Foucault ne pouvait que haïr Freud pour sa théorie de l'homosexualité. Hein, voilà. Hein, ben, voilà, notamment. Voilà. Donc, mais je suis d'accord. Enfin, alors ensuite, Freud est toujours, j'allais dire, présent. Moi, je suis une crypto-freudienne. Hein, si Manuel est un crypto, crypto-dialecticien. Donc, Freud est toujours un peu présent dans les choses. Mais enfin, là, en l'occurrence, ça me paraissait un peu tomber sous le sens. Enfin, je veux dire, pas être de l'ordre d'une interprétation personnelle. Voilà, j'ai pas vraiment répondu à votre question, mais je pense que ça engage trop de choses. C'est un peu comme la question de François. Je pense que c'est ça engage trop de choses qui n'est pas notre séminaire. Et voilà, j'ai pas envie d'y répondre mal et trop vite. Voilà, donc on pourra en reparler. Ceci dit, alors vous aviez une question.
Mais en fait, j'en ai plusieurs.
Oui, alors nommez-vous.
Alors bonjour, Vincent Deslandres. Moi, il me semble qu'effectivement, Freud avait vachement, enfin, beaucoup parlé de la mémoire, et notamment à travers, il a conceptualisé les souvenirs écrans. Donc je me demandais comment penser cette manière de penser la mémoire qui paraît, comme ça, de manière un peu rapide, extrêmement intérieure, avec l'idée qu'on a développée ici de la mémoire comme une chose externalisée à travers des techniques, etc. La deuxième réflexion, c'est qu'on parle quand même beaucoup de l'Œdipe, et moi, il me semblait qu'il y avait une lecture lacanienne de l'Œdipe qui insistait pour dire qu'en fait, ce qui était important dans le passage de l'Œdipe pour l'enfant, c'était de dépasser la relation incestueuse avec sa mère grâce à un troisième terme, qui était en fait un troisième terme logique, qui pouvait être un homme, une femme, un métier... Et que le passage de l'Œdipe, à ce moment-là, c'était simplement la condition de l'altérité. Et donc, le modèle de l'Œdipe, à ce moment-là, n'est pas du tout le modèle qu'on a décrit de l'opposition frontale des pères et des fils, enfin, me semble-t-il. Et pour finir, le troisième point, c'est que... on a parlé tout à l'heure de l'attitude des artistes, tellement différente quand ils se présentent ici et qu'ils disent « je viens parler avec vous », et on a l'impression que ce n'est pas les mêmes que ceux qui sont dans leur atelier... Et on a dit un petit peu que quand ils viennent ici, ils parlent et que leur discours est un discours qui serait absolument pas autonome, enfin, si j'ai bien compris ce qu'on disait, alors qu'en revanche, dans l'atelier, à travers la pratique artistique, on retrouverait là de l'autonomie. Mais moi, d'un seul coup, j'ai l'impression que c'était là un retour à une idée un peu romantique de... Qui est en contradiction, il me semble-t-il, avec un peu tout ce qu'on a dit ici, au contraire. Alors, et j'ai jamais très bien compris, à chaque fois que les artistes sont venus, effectivement, on a dit au début, on n'est pas là pour... on n'est pas là pour ça, mais on est là pour ça. Et moi, la différence entre ça et ça, je ne l'ai jamais très bien saisie. On n'est pas là pour parler de leur œuvre, mais là pour parler de la pratique. Je trouve ça pas évident à saisir.
Bon, alors, pour ce qui est de Freud, de la mémoire comme internalisée, externalisée, c'est intéressant que vous citiez le souvenir écran, puisqu'un écran, quand même, c'est précisément de l'ordre de l'extériorité. Ben, un écran, c'est sur quoi on projette quelque chose. Donc c'est intéressant, l'expression de souvenir écran est très intéressante puisqu'elle fait du souvenir une surface de projection d'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça prouve l'externalité du souvenir par rapport à une intériorité.
Excusez-moi, oui, c'est quand même ce qui s'interpose par rapport au souvenir qui a été refoulé.
Ben oui, ben justement, le souvenir refoulé, bon, à supposer qu'il y a un intérieur et un extérieur, disons le refoulé, Hein, le refoulé qui n'est pas, de l'ordre de la mémoire, justement. Hein, le refoulé, c'est un matériau pulsionnel qui n'est pas encore représenté dans le psychisme. Hein, Comment ?
Un souvenir qui est refoulé, c'est une chose qui est inconsciente.
Mais le souvenir, il n'est pas refoulé. Ce qui est refoulé, ce n'est pas le souvenir. Ce qui est refoulé, c'est un matériau psychique. Hein. Ensuite, le souvenir est un mode du refoulement, c'est-à-dire du retour-non-retour, d'une certaine façon. C'est-à-dire de la réémergence qui n'est pourtant pas une prise de conscience.
Un traumatisme peut être refoulé.
Un traumatisme n'est jamais refoulé. Un traumatisme, c'est précisément ce qui fait effraction et qui n'est pas filtré par la conscience et qui est déposé directement, si je puis dire, qui se dépose dans le système primaire sous la forme d'une trace absolument irreprésentable, à la fois comme affect ou comme verbalisation. Ce qui veut dire que c'est entièrement, c'est rien. Hein. Ce qui ne veut pas dire que non, il n'y a pas de souvenir du trauma, justement. Là où il y a du trauma, il n'y a pas de souvenir. Ça, c'est vraiment la base absolue. Non, non. Alors ensuite, ce matériau peut être élaboré et réélaboré. Il peut être élaboré. Hein. Il peut être, d'une certaine façon, être élaboré, c'est-à-dire traduit. D'une certaine façon, hein. Et cette traduction peut donner lieu à souvenir, effectivement, à un certain moment, à affect, etc. Mais ce travail d'élaboration du matériau déposé par le trauma, hein, qui est une espèce comme retombée d'une fusée, hein, je ne sais pas quoi, hein, en tant que tel, ce n'est pas du tout un souvenir. Hein. Il n'y a pas de souvenir du trauma. Il peut y avoir remontée du dépôt et traduction du dépôt sous la forme d'un souvenir, mais qui aura aussi peu de rapport avec, j'allais dire, la trace qu'une photographie avec ce qu'elle photographie. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Mais il n'y a jamais de souvenir du trauma. Ben sinon, il n'y aurait pas de trauma. Vous voyez le problème, hein? C'est que précisément, s'il y a trauma, c'est qu'il n'y a pas de souvenir. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les gens qui connaissent un trauma, eh bien, en général, eh ben, c'est pas en général, en réalité, systématiquement, ils ne se souviennent pas. C'est pour ça qu'ils répètent. C'est parce qu'ils ne se souviennent pas. D'accord, hein? Le souvenir est une représentation. Le trauma est absolument irreprésentable. C'est pour ça qu'il est mal guérissable.
Ou insupportable.
Ben, c'est la même chose. Inguérissable, ça veut dire insupportable. Hein? C'est-à-dire que dans la mesure où il n'y a pas d'élaboration possible de cette chose, ben voilà, hein, je veux dire, elle est là. Elle a des effets, mais sauf qu'on n'y peut strictement rien. Vous voyez ce que je veux dire? On n'y peut quelque chose qu'à partir du moment où elle est un tout petit peu représentée sous la forme d'un affect, par exemple, d'une angoisse, ou sous la forme de n'importe quoi, d'une compulsion, etc. Et là, on peut saisir quelque part, sur la carte, on va dire, du psychisme, on peut voir que ça réémerge un peu, vous voyez. Et là, on dit, voilà, là, ce truc-là, il faut arriver à le représenter. Hein, il faut arriver à ce que ça fasse image, hein, voilà. Ça fasse symptôme, ça fasse image, ça fasse douleur, etc. Parce que c'est même pas douloureux. Hein. Regardez les gens qui sont revenus des camps de concentration, qui ont survécu au camp. Tout simplement, ils ne disaient rien, mais rien du tout. Ils ont mis 50 ans à commencer à parler pour certains. Voilà. Et c'est pas du tout parce qu'ils voulaient rester silencieux, c'est tout simplement parce que c'était fort clos, fort clos. Et quand ils commençaient à souffrir, d'une certaine façon, c'était le mieux qui pouvait leur arriver. Et parfois, après, 30 ans après, les gens se sont suicidés. C'est qu'ils ont commencé à vraiment souffrir, c'est devenu intolérable, c'était éprouvé comme intolérable 30 ans après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement traumatisant que ça brûle entièrement la possibilité même. C'est comme c'est un dépôt qui a tout brûlé sur son passage. Mais bon, voilà.
Mais derrière le souvenir de l'écran, il n'y a pas forcément de trauma.
Ah non, bien sûr que non.
Donc derrière le souvenir de l'écran, il y a un autre souvenir.
Derrière le souvenir écran, il y a du refoulé. Il y a du refoulé. D'accord.
Le refoulé n'est pas du souvenir.
Le refoulé n'est pas du souvenir, non. Le refoulé, c'est du refoulé. C'est un matériau psychique refoulé. C'est une représentation refoulée.
Et donc si le refoulé a un moment...
Ou un affect refoulé. Mais
si
c'est pas
un souvenir. Si il est énoncé un moment pour de la cure, c'est une représentation, c'est pas un souvenir.
Il ne suffit pas d'énoncer pour que ça devienne une représentation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si c'est... disons, l'énonciation peut effectivement valoir pour représentation, mais elle n'est pas suffisante pour valoir comme représentation. C'est-à-dire que toute énonciation n'est pas opération de perlaboration. C'est-à-dire toute prise de conscience même n'est pas une opération de perlaboration et n'a pas d'effet cathartique. Le savoir n'a pas en tant que tel un effet cathartique. Ce qui a un effet cathartique, c'est la reconfiguration du rapport entre les deux systèmes psychiques. Et donc une formulation peut être l'occasion d'un tel remaniement de l'espace psychique. Dans ces cas-là, effectivement, il va y avoir un effet de guérison ou un effet de redynamisation de matériaux qui étaient jusque-là figés dans des rapports figés. Sinon, il ne se passe rien. Vous avez beau savoir, vous savez, c'est tout. Vous savez. Mais ça ne veut pas dire par là qu'il y aura véritablement levée du refoulement. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, deuxième chose, Lacan le dit, vous avez entièrement raison, évidemment, hein? Mais il est bien clair que Foucault, lorsqu'il lit Freud, il ne lit pas avec Lacan. Hein? Et il est d'autre part assez clair que lorsque Freud